Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir sur CNews dans 90 minutes info. Nos débats sont prêts ainsi que nos invités. Ludovine de la Rochère est avec nous. Bonjour. Bonjour, soyez la bienvenue. On est ravis de vous accueillir. Pierre Lellouche, bonjour Pierre Lellouche. Soyez le bienvenu. Jean-Michel Fauvergue,
bonjour.
Soyez le bienvenu également. Et nous allons parler de foot et de Coupe du Monde. Marc Libra est avec nous. Bonjour Marc Libra, soyez le bienvenu.
Merci.
Les débats dans quelques instants, mais d'abord un point sur l'actualité avec Mathieu Devez.
Dans l'actualité politique, Europe Écologie Les Verts élit sa nouvelle chef. Les écologistes désignent aujourd'hui à Rungis leur nouvelle secrétaire nationale, Marine Tondelier. L'élu d'Hénin Beaumont est notamment connu pour son combat contre le RN dans le Pas-de-Calais. François Braun assure que tout le monde peut se faire vacciner. Le rappel de vaccin contre le Covid-19 concernait dans un premier temps surtout les personnes de plus de 60 ans et les plus fragiles, ainsi que leur entourage. Le ministre de la Santé appelle à un sursaut de la vaccination. Seulement 2 800 000 personnes sont vaccinées depuis début octobre. C'est bien moins que nos voisins européens, précise le ministre de la Santé. Elon Musk va supprimer plus d'un milliard de comptes Twitter inactifs. Le milliardaire veut ainsi libérer ses pseudos pour les autres utilisateurs et les nouveaux arrivants. Elon Musk a pris d'autres décisions qui font moins l'unanimité, comme l'amnistie générale pour réhabiliter les comptes de personnalités suspendus dans le passé.
Et dans nos débats, la Coupe du Monde de football au Qatar. Pour démarrer, l'équipe de France affronte l'Angleterre en quart de finale ce soir à 20h. C'est l'événement du week-end, bien sûr. Je vous le disais, Marc Libra est avec nous pour en parler. Mais d'abord, direction Londres, où nos meilleurs ennemis, les Anglais, sont partagés entre crainte et euphorie. On retrouve Sarah Mena est sur place pour CNews.
La pression et l'ambiance commencent doucement à monter ici à Londres à quelques heures du coup d'envoi de ce match entre la France et l'Angleterre. Regardez la une aujourd'hui du tabloïd, le Daily Mirror, qui titre « Yes, we can ». Oui, nous pouvons le faire, les tabloïds britanniques, assez confiants à l'aube d'affronter cette équipe de France. Ce n'est pas forcément le cas des supporters anglais à qui nous avons parlé, ces supporters des Free Lions qui se disent quand même assez anxieux ce soir à l'idée d'affronter cette équipe de France championne du monde en titre. Et puis évidemment, un nom est sur toutes les lèvres depuis une semaine, c'est celui de Kylian Mbappé, l'attaquant star de l'équipe de France, fait très peur aux supporters anglais. D'ailleurs, la presse britannique ces derniers jours a beaucoup anglais ses reportages et ses papiers sur le duel qui devrait opposer ce soir à l'arrière-droit le défenseur de cette équipe anglaise, Kyle Walker, avec l'attaquant star de l'équipe de France, Kylian Mbappé. La presse britannique estime que ce sont près de 30 millions de personnes ce soir ici au Royaume-Uni qui vont regarder ce match à la télévision et que les pubs devraient servir environ 100 millions pintes de bière. Alors les pubs, pour l'instant, vous le voyez, sont encore vides. Il est un petit peu trop tôt pour ça, même en Angleterre.
Grosse ambiance donc en Angleterre, à Londres, mais également en France. Quel que soit le résultat, il y aura sans doute beaucoup d'émotions et pas mal de mouvements après la rencontre, autour de cette rencontre. Mais d'abord, pour entrer dans le vif du sujet, parce que c'est le mot-clé et le référent depuis le début de la Coupe du Monde, Marc Libra, Mbappé bien sûr. Les Anglais ont-ils peur de Kylian Mbappé?
Alors, la presse anglaise ne veut pas en parler, mais tous les Anglais sont au courant qu'actuellement, un des meilleurs joueurs de cette Coupe du Monde, c'est Kylian Mbappé. On a vu lors de ces matchs ce qu'il est capable de produire, ce qu'il est capable de faire, ses prestations. On a bien vu que sur le troisième match, il rentre une dizaine de minutes face à la Tunisie. On a vu ce qu'il est capable de faire, les accélérations, il fait la différence. Il entraîne des éclaboussées de tout son talent sur une Coupe du Monde, sur sa deuxième Coupe du Monde à seulement 24 ans. Donc si toutes les planètes s'alignent, aujourd'hui, Kylian Mbappé est capable de faire gagner l'équipe de France à lui tout seul, vraiment.
C'est notre arme fatale, est-ce la seule? Est-ce la seule? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut tout miser? Est-ce qu'il faut faire all-in sur Kylian Mbappé, Marc Libra?
Je vais dire que ça serait bien qu'on fasse all-in sur lui, mais il y a des joueurs comme Giroud qui connaissent parfaitement l'Angleterre, qui ont évolué, même si aujourd'hui il est en Italie. Il connaît l'Angleterre. Hugo Lloris connaît parfaitement l'Angleterre. Varane est en Angleterre. Donc, ça serait bien de se focaliser un petit peu sur Mbappé et laisser le champ aux autres. Mais et puis les Anglais sont en train de mettre quelque chose en place pour essayer de le contrer.
Les Anglais qui ont bien préparé ce match, cela fait 2 ans que les Anglais ont imaginé qu'il pourrait y avoir un France-Angleterre en Coupe du Monde. Et vous le savez, Marc,
ouais,
effectivement, il y a un salarié de la Fédération anglaise qui, chaque jour, depuis 2 ans, a travaillé sur cette rencontre et sur Kylian Mbappé. Ils sont plus à bloc que nous, les Anglais.
Non, mais en fait, ils ont fait ça par rapport à toutes les équipes et toutes les nations qui sont susceptibles de rencontrer. Mais à un moment donné, il y a deux ans, on part de notre élimination face à la Suisse au championnat d'Europe. On est en reconstruction totale. On n'a jamais eu la même composition d'équipe. Il y avait Pogba, il y avait Kanté, il y avait Benzema qui est arrivé entre-temps. Donc là, à l'heure actuelle, il y a des joueurs comme nos latéraux qui n'étaient pas forcément ceux qui étaient prévus. Varane, qui est convalescent, mais qui sera là. Upamecano n'était pas prévu. Oui, on peut tout calculer. Après, vous démarrez la rencontre, au bout de 5 minutes, vous prenez un carton rouge, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que tout ce que vous avez bossé pendant 2 ans, tout passe à travers. Donc ça me fait bien rire, doucement rire, quand on me dit, mais nous on prépare. Un match va démarrer et on va voir ce qui se passe. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le plan Antoine Mbappé avec Kyle Walker, qui lui joue à City, est un joueur qui est normalement assez rapide, devrait s'occuper de lui. Ça va être le duel, le match dans le match entre ces deux hommes.
Ils ont été chronométrés, Kylian Mbappé et Kyle Walker, celui qui sera dans son couloir ce soir. Mbappé chronométré à plus de 35 km/h et Kyle Walker seulement 34 km/h, Pierre Lelouch. Il va beaucoup moins vite. 1 km/h de moins que Kylian Mbappé. Non mais ce sont des allures de deux roues, c'est incroyable.
Dans Paris, ils se font flasher donc.
Ah ben exactement, mais ils se font verbaliser direct, ça c'est une certitude. La rivalité franco-britannique, on va en parler dans quelques instants avec nos experts. Je ferai un tour de table parce qu'on peut avoir aussi des accointances ou des souvenirs de rivalité franco-britannique dans d'autres sports ou dans les tensions politiques que l'on a pu connaître avec ce pays. Mais d'abord, pour rester un tout petit peu sur le football, autre référence du ballon rond, Alain Giresse, grande star de l'équipe de France, qui était en ligne avec nous tout à l'heure sur CNews et qui estime que ce match, ce soir, on est bien avancé, c'est du 50-50.
Après l'opposition, on le dit, c'est du 50-50, effectivement. Bon, nous, on peut s'engorgueillir du palmarès. Le palmarès, il est pour nous. Habituellement, on dit que les Anglais, ils inventent tout, mais pour le moment, c'est nous qui avons le palmarès. Donc déjà, c'est un atout. Mais après, ça sera sur le terrain. Et c'est vrai qu'ils ont des arguments, on en a aussi. Donc je crois qu'aujourd'hui, on peut être... Je ne dis pas qu'on peut être serein, mais on est capable d'aborder ce match avec beaucoup de confiance. Après, il faut évidemment le traduire.
La confiance, en effet, mais il faut confirmer sur le terrain. Alors, vous avez vu que les Anglais se sont préparés à cette rencontre. Les médias aussi y contribuent en Angleterre. Vous allez voir quelques-unes assez marrantes, assez drôles. Bon, ils se moquent un peu de nous, les journaux, avec notamment le roi Harry. Et une belle tour Eiffel juste à côté, là. Ils rentrent chez nous, notamment les Anglais qui croient que les roast beef vont être battus. Quotidien anglais The Sun, notamment, s'est offert des publicités qui sont passées un petit peu partout dans les rues de Paris. Vous les avez peut-être remarqué. C'est assez drôle en effet, mais ça fait monter un petit peu la puissance de cette rivalité, de cette confrontation. Est-ce que vous, par rapport au crunch et le rugby, vous suivez encore plus Jean-Michel Fauvergue, vous avez le sentiment qu'il y a une vraie tension, une vraie rivalité entre les Français et les Anglais?
Les Anglais, dans la plupart de nos sports, en particulier le rugby et le foot aussi, c'est nos meilleurs ennemis ou nos meilleurs amis, comme vous voulez. Mais en tout cas, il y a toujours cette friction avant les matchs, pendant les matchs. Après, ça se calme un peu. Je suis pas étonné de ces pubs-là. Et on est véritablement dans cet impact-là. Pour en revenir à ce qui a été dit tout à l'heure, les Anglais ont étudié l'équipe de France sous tous ses aspects, mais c'est comme ça qu'on se prépare en tout cas c'est comme ça qu'on se prépare tous à des crises ou à des choses qui vont arriver, et c'est la meilleure. Mais on sait tous aussi que ce qui arrive le plus souvent, c'est l'improbable, donc il faut faire attention à ça.
Et l'improbable, ce serait une victoire de l'Angleterre ? Non, attendez.
Non, c'est pas ce que j'ai dit.
J'ai eu peur, Jean-Michel.
Non, c'est pas absolument pas. Bon, je pense que l'équipe de France va gagner. Je suis très chauvin, de toute façon, d'une manière comme d'une autre. Non, mais l'improbable, c'est ben, je parlais au niveau des Anglais qui nous ont étudiés à fond. Il peut se passer des choses qu'ils n'ont pas prévues parce qu'il peut y avoir des blessures, parce qu'il peut y avoir des cartons, comme vous aviez dit, parce que pour des tas de choses.
Pourquoi il y a une telle rivalité entre les Français et les Anglais, historiquement, culturellement, à plein de niveaux?
Ils ont passé 100 ans chez nous, vous vous rendez compte?
Et ils ont gardé une dent contre nous encore depuis cette époque, avec tout ce temps-là.
Ils ont fait beaucoup de malheurs.
Ils ont occupé Calais, ils y sont toujours.
Jusqu'à ce que Louis XI les mette dehors, mais ça a été compliqué. Moi, je veux dire deux choses. D'abord, reprenant les termes de la bataille de Fontenoy, qu'ils tirent les premiers, puis nous, on les aura à l'arrivée. Et la deuxième chose, c'est que quand je vois Kylian Mbappé, Franchement, je vois une joie de vivre. Il fait plaisir, ce jeune.
Il faut se rallier à son panache blanc.
Bleu, plus exactement. Il fait très, très plaisir. L'équipe de France fait plaisir. Moi, j'ai vu jouer avec beaucoup de bonheur. Et s'ils jouent dans cet état d'esprit, ils n'ont rien à craindre. Donc, je suis très, très positif, même si l'équipe anglaise
bien sûr
de grande qualité.
Vous les aimez bien, les Anglais, Ludovine de la Rochère, en général?
J'aime beaucoup les Anglais, ils me font beaucoup rire. L'humour britannique,
le
passe sans rire, le flegme est très, très drôle. Et d'ailleurs, Obélix... En Angleterre, c'est pas le bon titre.
Alors, Astérix, de l'autre côté de la Manche, peut-être, ouais, à traverser de la Manche, très, quelque chose comme ça.
Qui met très, très bien en valeur la cup of tea, le nuage de l'œil anglais, enfin tout ça, toutes les habitudes, les...
Ce serait pas Astérix chez les Bretons, plus exactement, c'est ça.
Il existait autant des Gaulois.
Oui, mais absolument, mais c'est ça qui est très, très drôle. Et je donne cet exemple-là, on pourrait en donner beaucoup d'autres. Il y a aussi des films, des stars... James Bond, il y a une classe, un humour et en même temps un caractère très affirmé.
C'est vrai. Vous voulez rajouter quelque chose,
Jean-Michel? Non, je voulais juste sur les Anglais. Si on a le droit, je voulais juste vous poser des questions.
On a tous les droits.
Qui êtes des spécialistes du foot, parce que je suis très intéressé par ça. Si le Ballon d'Or Karim Benzema était sur le terrain, est-ce que Papé aurait brillé de la même manière? Est-ce que les choses n'auraient pas été différentes?
Malheureusement, on ne le saura jamais.
On ne saura pas.
On a parlé d'une association. Dans ces cas-là, il aurait peut-être fallu jouer à deux devant et pas à trois, parce qu'actuellement, c'est Giroud qui prend la pointe, Dembélé d'un côté. Et si Karim Benzema avait été mis en avant, peut-être qu'au détriment de Kylian Mbappé.
Moi, j'aime beaucoup.
Donc, la question, on se la posera presque jamais, puisque on va voir ce qui va se passer pour Karim Benzema, vu l'âge qu'il a.
Et j'allais ajouter une chose, c'est qu'en écoutant monsieur, en écoutant ceux qui connaissent très bien le foot, et parfois en écoutant, mais d'une oreille, parce que quelqu'un écoute une émission radio sur le foot, c'est tout un langage, toute une manière de parler, et puis de parler de personne, et de réfléchir au caractère, à ce qui peut arriver. Il y a un côté très sympathique, très vivant, très humain, avec un suspense incroyable, évidemment, et qui monte avant chaque match, et encore plus ce soir. Et ça, c'est quelque chose de très sympathique qui vient régulièrement dans l'actualité et qui nous change des mauvaises nouvelles.
Saviez-vous, puisqu'on parle beaucoup de Kylian Mbappé, que Kylian Mbappé vivait en Angleterre? Vous étiez au courant de ça?
Non.
Vous ne saviez pas que Kylian Mbappé vivait en Angleterre? Regardez, c'est un jeune homme de 16 ans qui vit actuellement à Leicester. Il a fait la une du Sun et il s'appelle lui aussi Kylian Mbappé. Il est le cousin éloigné du vrai Kylian Mbappé, notre crack de Bondy. Son père étant le cousin de Wilfried Mbappé, le papa de Kylian, avec qui il a vécu au Cameroun. Et donc c'est un garçon qui joue aussi au football, mais à un niveau moindre, évidemment, au poste de l'arrière gauche. Et il travaille dans un pub. Voilà, donc nous avons un vrai Kylian Mbappé, non mais qui a été la star cette semaine avant ce match en Angleterre. On a même essayé de le joindre, on n'y est pas arrivé parce que sa messagerie est complètement saturée. C'est quand même incroyable. Et pour terminer sur la page football, vous savez que toute la France est derrière les Bleus. Marc Libra, Pierre Lelouch, Jean-Michel Fauvert, Ludovine de la Rochère, et tous les Bleus, tous les Français sont là. Y compris Gilbert Montagnier, qui avec Didier Barbelivien, son compositeur, a repris sa fameuse chanson que tout le monde connaît, Sous les sunlights des tropiques. Mais en hommage à Kylian Mbappé. Mbappé, tous tes buts sont magnifiques. En équipe de France, t'es magique. Tu nous fais tellement rêver. Depuis longtemps, Mbappé, tu fais briller ton équipe. Tu rends tous les bleus. C'est très bon. Ça sonne bien, voilà. Kylian Mbappé, ça donne le sourire. Et voilà, toute la France derrière Mbappé, ce sera peut-être un hymne qu'on rediffusera demain.
Ça reviendra, ça repassera.
C'est vrai que derrière tous ces champions, il y a des destins quand même. Je pense à Neymar hier.
Qui a été éliminé avec le Brésil, oui.
C'est très dur. Soit des immenses joies, soit des coups terribles.
Et puis c'est aussi un ascenseur social extraordinaire. Et pour tous les milieux, toutes les origines, tous les parcours,
c'est pour ça qu'il y a un grand potentiel d'identification des gens
mais lui spécialement avec les gosses il est extraordinaire Mbappé hein. En tant qu'être humain, en tant que
il respire la joie de vivre,
il est extraordinaire.
C'est quelqu'un qui est programmé hein, quand même, alors qui respire la joie de vivre, qui est sincère mais qui est programmé pour réussir et faire sa communication.
Il est bien câblé
attention il est très bien câblé et franchement comme on fait souvent des débats politiques dans cette émission et sur cette chaîne, on pourrait y associer Kylian Mbappé, qui a une vraie réflexion sur l'ensemble des choses.
À 23 ans, c'est impressionnant.
Très impressionnant, absolument. Il sera peut-être un jour président de la République, qui sait, Pierre Lelouch. Au moins ministre.
Non, mais
c'est possible.
Je ne suis pas sûr que les sportifs, ministres des sports, était nécessairement une bonne affaire. Mais ça, c'est un autre débat.
Ou comme les enseignants,
mais peut-être un autre portefeuille. Qui sait
ou comme les médecins, ministres de la Santé.
Peut-être l'économie pour Kylian Mbappé. Attention, ça va très très vite. Merci Marc Libra. Merci infiniment. À très vite sur l'antenne de CNews. On va se revoir puisque la Coupe du Monde n'est pas terminée. On espère qu'il y aura de bonnes chances pour cette équipe de France. Dans l'actualité également, et on en parle avec nos invités, un nouveau camp de migrants qui s'est installé sous le métro aérien de Paris dans le 18e arrondissement. Anne Hidalgo s'est rendue sur place pour appeler l'État à prendre sa part pour régler le problème des sans-abri et des migrants. En attendant, les riverains dénoncent l'inaction des pouvoirs publics. Jeanne Cancard et Fabrice Esner.
Pour les riverains du boulevard de la Chapelle dans le nord de Paris, les visites des politiques ne changent rien. Ils ont le sentiment d'être abandonnés, tout comme les centaines de migrants installés sous le pont de ce métro aérien. Mélinée habite ici depuis plus de 10 ans et voit son quartier se dégrader de jour en jour.
C'est ramassé toutes les misères, toutes les voilà. Dès qu'il y a un truc, de toute manière, les gens atterrissent ici. Quand c'est devant l'hôtel de ville, quand c'est Palais Royal, en 2 jours c'est réglé. Ici, ça reste des mois.
Sur le boulevard de la Chapelle, c'est le même scénario qui se répète au fil des années. Ce campement de migrants est inlassablement évacué sans que de vraies solutions ne soient trouvées, sous les yeux impuissants des habitants.
Vous pouvez imaginer ce que c'est que de vivre avec 1000 personnes en situation extrêmement précaire, qui vivent dans la rue, avec tout ce que ça génère. On a vécu ça en 2015-2016, le quartier s'en est pas remis. La mairie a investi 20 millions d'euros pour réhabiliter l'endroit ensuite, et voilà, on retombe à la case départ.
De son côté, la mairie de Paris renvoie la balle au gouvernement et demande à l'État de travailler pour apporter des solutions concrètes de mise à l'abri.
On va parler, Jean-Michel Fauvergue, dans quelques instants, de la politique migratoire. On y revient quand il s'agit notamment de migrants que l'on trouve sur le sol français. Pourquoi sont-ils là? Quelle est la politique qu'il faut mener? Mais moi, j'ai juste une question. Comment, en France, on peut laisser un tel camp s'installer sous un métro, dans une rue de Paris ou sur une place, comme ça a été le cas récemment dans la capitale?
Oui, Lionel, il vous aura pas échappé que ils s'installent, ils sont évacués, ils reviennent, ils sont évacués, ils reviennent. Enfin, c'est un mouvement perpétuel avec une complicité des associations. Certaines associations, on l'a déjà dit sur ce plateau. Mais la réalité des choses, c'est que en termes migratoires, il faut maintenant. Il est quand même temps, depuis plusieurs décennies, on ne s'est jamais positionné comme ça. Il faut maintenant avoir une politique, et une politique construite et sérieuse, et que l'on tient dans le temps, quels que soient les gouvernements qui se succèdent, quelles que soient les majorités qui se succèdent. Les Français, maintenant, en ont assez de tout ça. D'ailleurs, ils l'ont signifié aux dernières élections. On ne sait pas pour rien qu'on a 89 députés de l'extrême droite. C'est pas pour rien que dans d'autres pays aussi, l'extrême droite est au pouvoir, revient au pouvoir de manière assez régulière. Il y a ce problème-là à prendre à bras-le-corps. Ce problème-là est quelquefois corrélé, on le sait aussi, avec l'insécurité. Il faut travailler sur cette immigration agressive, cette immigration d'insécurité. Il faut travailler aussi sur l'immigration submersive, c'est-à-dire ces flots entiers qui arrivent non seulement en France, mais dans toute l'Europe. Et il faut travailler sur une immigration mieux choisie, mieux calibré et qui puisse mieux s'éclore dans notre pays, en particulier en occupant des emplois qui sont désormais vacants, qui sont maintenant vacants.
Je vais céder la parole à Pierre Lelouch et Ludovine de la Rochère dans quelques instants, mais je voudrais vous faire écouter Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui pense que la présence de ces migrants, qu'ils soient d'ailleurs dans les rues ou sous ce pont aérien du métro, c'est la responsabilité du gouvernement. Écoutez.
Nous avons ici un campement dans Paris, un campement pour l'essentiel d'hommes venant d'Afghanistan et qui sont en dehors de toute aide, hormis ce que peuvent apporter les associations. Cette situation, elle dépend de la compétence de l'État. C'est l'État qui doit travailler à la mise à l'abri des personnes à la rue. Et les questions aussi d'immigration relèvent de la compétence de l'État.
Ce qui veut dire que si on écoute bien Anne Hidalgo, Pierre Lelouch, l'État en matière de migrants est incompétent, puisque cela relève de la compétence de l'État.
Madame Hidalgo, elle prend les Parisiens pour des billes et elle passe son temps à jouer au ping-pong avec d'autres autorités. C'est jamais sa faute, c'est la faute de l'État. Et donc, c'est pas elle. Donc, voilà, adressez-vous à quelqu'un d'autre. Vous avez noté qu'hier, le préfet de police, de nouveau, M. Nunes, qui a été nommé tout récemment, n'était même pas là. c'est dire à quel point les relations qui étaient exécrables avant Nunes sont redevenues exécrables. Mettez-vous à la place des gens, les Parisiens qui vivent au contact de cela, mais même tous les autres, parce que tout ça, ça entraîne des conséquences en termes d'insécurité, de dégradation de la vie à Paris qui sont considérables et qui s'installent maintenant dans la durée. Je crois que, contrairement à M. Fauvert, je ne suis pas pour l'éclosion de l'immigration en France. Je crois qu'il faut arrêter la blague. Nous ne pouvons pas continuer à accepter 500 000 de personnes par an, 270 000 légaux, 150 000 qui demandent l'asile pour tout un tas de raisons, économiques ou autres, et puis 50 000 mineurs non accompagnés.
Donc il faut fermer les frontières.
Il faut vraiment fermer les frontières. Il faut que nous reprenions le contrôle de nos côtes et de nos frontières. Beaucoup de gens en France nous expliquent que c'est impossible, que c'est foutu de toute façon, que le sort de la France, c'est de subir l'immigration. Je ne suis pas du tout de cet avis. C'est assez curieux. Quand Eugénie Bastier disait hier de façon très intelligente, elle comparait les deux grands problèmes auxquels nous sommes confrontés, le climat d'un côté, l'immigration de l'autre. En matière de climat, on n'arrête pas d'expliquer aux gens que le problème, c'est le réchauffement. Et aujourd'hui, les climato-sceptiques sont condamnés. Pour l'immigration, c'est exactement l'inverse. On considère que ce qui nous arrive est une fatalité, qu'il faut s'y résigner, et après aux élus locaux de gérer comme ils peuvent les camps qu'on défait ou qu'on ne défait pas. Moi, je crois qu'il faut complètement changer de logiciel, comprendre que ce qui nous arrive, c'est le début d'une immense vague, que si nous n'envoyons pas les bons signaux aux pays qui nous envoient leur population...
Ce sera irréversible. Est-ce que c'est ce que vous avez suggéré tout à l'heure, Jean-Michel Fauvert, avec l'éclosion de l'immigration notamment?
J'ai bien dit, et je vais le répéter, qu'il faut qu'on arrive à travailler, à combattre et à faire repartir chez eux, à stopper dans un premier temps, à combattre dans un deuxième temps et à empêcher d'arriver dans un troisième temps l'immigration agressive, celle qui nous crée de la criminalité, celle qui nous crée de l'islam politique et du séparatisme, celle-là il faut la combattre. La deuxième immigration à combattre, et j'ai été très clair là-dessus, c'est l'immigration submersive, celle qui arrive par flot. Et qui, même si elle ne fait pas tout ce que j'ai dit auparavant, c'est-à-dire de criminalité, est en train de faire en sorte que notre pays, sociétalement, est en train d'évoluer, d'imploser. Ça, c'est les deux immigrations qu'il faut arrêter.
Qu'on n'arrive pas à endiguer. Et la fermeture des frontières dont parle Pierre Lelouch, c'est peut-être ce point-là.
Je suis désolé de vous le dire, mais sur le long terme, ça se travaille aussi. C'est comme l'énergie nucléaire, ça se travaille sur le long terme. Sur le long terme, il n'y a jamais eu de politiques qui ont été menées dans ce domaine-là et qui ont été maintenues dans la distance. Et la troisième immigration, je disais, c'est l'immigration nécessaire et acceptée parce qu'on a besoin à un certain moment.
Mais arrêtez avec ça.
Une immigration est nécessaire à accepter.
Immigration de travail. Non, mais de faire.
Mais si.
Alors, Pierre Lelouch, après, j'aimerais qu'on entende Ludovic de la Rochère avant la publicité.
On ne peut pas être sur une immigration zéro, c'est pas possible.
Pierre Lelouch.
Mélangeons pas tout. On parle d'immigration de travail. Monsieur Darmanin, monsieur Dufop prépare un texte là-dessus. Je rappelle qu'il y a 5 millions de chômeurs en France et qu'il y a des centaines de milliers d'offres d'emploi non satisfaites. Donc, il n'y a pas besoin d'immigrants pour ces emplois, à condition que les gens soient amenés à travailler. Or, ils ne sont pas amenés à travailler. Premier problème. Deuxième problème, il faut savoir que le taux de chômage des immigrés en France est 30%. Troisième problème, sur toutes les statistiques d'entrée légale en France, sur 270 000, monsieur Fauvert, 14% seulement viennent travailler. 14%. Quatrièmement, enfin, l'intégration par le travail existe déjà dans les textes. Elle existe. La régularisation des sans-papiers par le travail, ça existe déjà. Donc, on n'aille pas à m'expliquer que dans la 39e, je crois que c'est la 29e ou 30e loi qui arrive dans le Parlement ces jours-ci, on va traiter le problème par l'angle de ce que vous appelez la troisième.
Le problème doit être traité peut-être avec sujet, la nouvelle politique migratoire.
Faire changer complètement le logiciel en matière de traitement de l'immigration dans ce pays. Arrêter de penser que c'est une espèce de fatalité et même que certains disent une fatalité souhaitable, la créolisation de la société française.
Je ne pense pas que Jean-Michel Fauvert ait parlé de fatalité.
Non, mais je ne m'en rends pas à lui.
Il y a un constat. Ludovine de la Rochère, bien sûr. Voilà. Ludovine de la Rochère, votre sentiment sur cette politique migratoire, la nouvelle politique migratoire, qui devrait normalement faire changer les choses, même si ça paraît quand même très audacieux.
Alors je crois qu'elle n'est pas du tout partie pour faire changer les choses, mais c'était intéressant de vous écouter, messieurs, parce que en fait, vous donnez raison à Anne Hidalgo. C'est-à-dire qu'elle dit que c'est la faute de l'État. Et elle a en partie raison, malgré tout. Et Dieu sait que ça me fait mal de le dire, mais en l'occurrence, elle a en partie raison. Elle a sa propre responsabilité de maire et elle est dans le déni. Elle est,
enfin, elle soutient, Madame la Recherche. Hidalgo soutient l'immigration, finance les associations pro-migrants. Ne dites pas qu'elle y est pour rien, voyons.
Si vous le voulez bien, je poursuis ce que j'étais en train de dire. Elle a sa part. Et elle est irresponsable, elle est complice et elle finance notamment les associations.
Je préfère que vous même si elle met à disposition avec la mairie de Paris des logements pour les sans-abri dans le cadre hôtels, du plan Grand Froid.
Le contribuable parisien paye des centaines d'hôtels.
Ludovine de la Rochère.
C'est ce que je m'apprêtais à dire. Néanmoins, et votre discussion l'atteste, l'État a aussi sa part, malheureusement, et une part extrêmement importante, puisque Emmanuel Macron prétend que l'immigration, c'est l'ADN de la France. C'est faux, c'est factuellement faux. Et un chef de l'État qui fait preuve soit d'une telle inculture, soit d'une telle idéologie, est indigne de sa fonction. Deuxièmement, un certain nombre nous disent « l'immigration est une chance ». Et les Français sont victimes d'une telle sottise et les faits sont malheureusement quotidiens. Troisièmement, la question du travail et des retraites, la natalité, quand est-ce qu'on en parle ? François Bayrou avait dit « Nous avons une difficulté pour l'avenir, il y a deux solutions, la natalité ou l'immigration ». Nos dirigeants d'aujourd'hui, au premier rang desquels M. Darmanin, ont pour solution l'immigration. La natalité n'a jamais été aussi basse là en ce mois d'octobre, le dernier chiffre, octobre 2022. Personne n'en parle, personne ne s'en préoccupe. Il n'y a rien pour favoriser la natalité et donc la possibilité, alors là en l'occurrence à moyen terme, que les Français occupent les emplois. Et par ailleurs, les jeunes, il faut les former et leur donner envie de travailler.
On marque une pause, on se retrouve dans quelques instants avec d'autres débats. Nos invités sur le plateau de 90 Minutes Info, à tout de suite. De nouveaux débats dans quelques instants dans 90 minutes info sur CNews, mais d'abord un point sur l'actualité, Mathieu Devez.
Les vacances de Noël menacées par une grève à la SNCF, la situation avec les aiguilleurs reste tendue, la direction leur propose une remise de service de 10 minutes et une indemnité mensuelle forfaitaire de 60 euros, insuffisant pour Sudrail qui demandait 20 minutes et 300 euros mensuels en plus. Le syndicat a donc maintenu son appel à la grève du 15 au 19 décembre. Le Parlement européen, secoué par des soupçons de corruption, une vice-présidente grecque de l'Assemblée a notamment été interpellée par la police belge. Elle est soupçonnée d'avoir reçu de l'argent du Qatar pour influencer les décisions économiques et politiques de l'institution. Au total, 5 personnes ont été arrêtées hier à Bruxelles. Un trio pour la paix, les lauréats ukrainiens, russes et bélarusses du Nobel de la paix reçoivent leur prix à Oslo en Norvège. Les lauréats de cette édition sont un militant biélorusse en prison dans son pays, une ONG russe frappée par un ordre de dissolution et le Centre ukrainien pour les libertés civiles qui s'emploie à documenter les crimes de guerre russes dans le conflit en cours depuis 8 mois. Enfin, France-Angleterre, c'est ce soir. On parle bien sûr de la Coupe du Monde de football au Qatar. Les Bleus tenteront de se qualifier pour les demi-finales. Un choc de titans entre la France de Kylian Mbappé, tenante du titre, et l'Angleterre, vice-championne d'Europe. Dans le viseur, donc, une place dans le dernier carré face au vainqueur de Maroc-Portugal. Le coup d'envoi sera donné à 20h.
Et à présent, avec maintenant ce nouveau drame violent. Un homme de 87 ans est mort après avoir été sauvagement agressé dans sa cave, dans la cave de sa résidence à Beson, dans le Val d'Oise. Deux suspects ont été mis en examen, placés en garde à vue. Kinson est sur place pour CNews. Quels sont les derniers détails que vous avez recueillis sur cette affaire ?
Les voisins sont sous le choc. C'est la première fois qu'un tel drame se produit dans cette résidence. Tous décrivent un quartier résidentiel très calme et sans histoire. Les voisins avec qui nous avons échangé connaissaient très bien la victime. Ils décrivent un homme très gentil, sans histoire. Il vivait ici depuis de nombreuses années avec sa femme et ses enfants. Il possédait notamment un petit potager près de la résidence. Pour la petite histoire, les voisins avec qui nous avons échangé se montrent en revanche plus discrets concernant les auteurs présumés, sans doute par crainte de représailles, disent-ils, et ils refusent de témoigner davantage à ce sujet. Je vous propose d'écouter le témoignage très émouvant de Jean-Luc. Il vit ici, dans cette résidence, depuis une cinquantaine d'années.
Un monsieur très gentil, qui était ami avec mon père, qui est décédé il y a 2 ans. Ils avaient un petit jardin d'autre côté, là, à Beson. Donc je le connaissais très bien. C'est un acte de barbarie pour moi. Je ne peux pas en dire plus. j'ai pas de mots. Ça me choque que ça puisse se passer ici. C'est une résidence très calme. En principe, jamais de soucis, rien.
L'octogénaire est décédé dans la nuit de vendredi à samedi à la suite de ses blessures. Nous avons aussi échangé plus longuement dans la matinée avec la mère de Beson. Elle nous demande de respecter la douleur de la famille en nous tenant à l'écart de la résidence. Elle appelle la justice à faire preuve de la plus grande sévérité concernant les auteurs présumés.
Kinson à Beson dans le Val d'Oise. On entendra d'ailleurs quelques extraits de l'interview de la maire de cette commune dans quelques instants. Mais Jean-Michel Fauvergue, on a parlé sur ce plateau déjà, sur cette antenne, de la recrudescence d'agressions, mais recrudescence d'agressions de personnes âgées aussi, parce que ça fait écho et résonance à ce qui s'est passé à Cannes notamment, ou d'autres encore. Alors est-ce que c'est le hasard ou est-ce que c'est vraiment un phénomène qui est en train de se matérialiser?
Alors en ce qui concerne cette affaire-là, qui est un peu particulière, avec deux interpellés de garde à vue, il me semble, dont un aurait, je parle bien en conditionnel, des problèmes psychologiques importants. Je sais, l'enquête nous dira ce qui s'est passé exactement, s'il y avait véritablement un guet-apens qui a entraîné la mort de ce monsieur âgé. Mais effectivement, vous avez raison, il y a eu une recrudescence ces derniers temps d'agressions sur des personnes âgées, sur la voie publique. On a vu que sur Nice, ou Cannes, pardon, sur Cannes, c'était des mineurs qui avaient agressé une vieille dame. On a même vu d'ailleurs un couple d'octogénaires se faire agresser, dont la dame s'est défendue à coups de couteau et a blessé très fortement son agresseur. Donc effectivement, on a une recrudescence de ce type d'agression. Sur ce type d'agression-là, la problématique en général sur les agressions dans notre pays, c'est la justice et la sanction pénale qui n'est ni immédiate ni adaptée d'une manière générale. Bon, sur des affaires comme ça, quand il s'agit de meurtres de ce type-là, la justice, comme des affaires terroristes, la justice suit plutôt bien, avec de belles condamnations. Mais il faut travailler sur l'insécurité du quotidien, c'est ça qui est important.
Oui, mais surtout,
et c'est là où ça manque de sanctions.
Bien sûr, et est-ce que cela veut dire aussi, Ludovine de la Rochère, et ça ne va pas nous rassurer, c'est que nul n'est plus tranquille partout. C'est-à-dire que les agressions en général, et notamment les agressions de personnes âgées, se sont déroulées jusqu'à présent dans la rue. Là, c'est carrément dans la cave de ce monsieur. C'est-à-dire qu'il est descendu chercher quelque chose dans sa cave, sa femme ne le voyant pas revenir, elle descend, il était baigné dans son sang. Il a été agressé sauvagement, dans sa résidence.
D'après les faits qui ont déjà été rendus publics, c'est terrible, c'était un homme... 87 ans, donc nécessairement fragile, même s'il devait être suffisamment en forme puisqu'il allait chercher quelque chose dans sa cave. Et quand, quelques heures plus tard, enfin, ou au bout d'un moment, sa femme est venue le chercher, elle l'a trouvé dans une mare de sang. Il a été dit qu'ensuite, elle avait expliqué à la police, mais c'était le lendemain seulement, qu'il y avait un jeune homme qui était là à côté dans un canapé. Et tout est parti d'une altercation entre ce monsieur et le jeune homme. Sur le fait d'être installé là dans une cave, en fait, ce jeune homme, ou de glander dans son canapé là, à cet endroit-là. Et ça veut dire que ce jeune homme, après avoir agressé le monsieur jusqu'à le laisser au bord de la mort, est resté sur place. Sa femme est venue là, il n'était pas gêné, il était sur place. Donc,
en laissant supposer que c'était une mauvaise chute que le monsieur avait fait. Parce qu'il n'est pas mort tout de suite,
Tout de suite, mais je ne sais même pas si cette dame a parlé avec cet homme d'une trentaine d'années, mais c'est dire à quel point l'absence d'empathie, c'est dire l'état de sauvagerie, l'absence complète de sentiment à l'égard de sa victime, et le même pas peur. J'ai à peu près tué un homme, et je reste sur place à côté, sa femme vient et je reste là. Et il est resté chez lui. Et il a été, au début, il a nié les faits quand on s'est dit, c'est pas une chute, mais c'est une agression. Chez lui, il avait ses chaussures pleines de sang, qu'il avait gardées chez lui. Même pas peur. Et il y a un autre fait qui est très frappant, parce que vous avez raison, c'est la xème fois qu'on entend, c'est un endroit très calme, très tranquille, où on se sentait jusqu'à présent en sécurité. En fait, il n'y a pas de sécurité nulle part, mais on est dans un HLM. Donc dans un logement social, et ses deux frères qui étaient des multi-récidivistes avec des faits graves, voire très graves, connus des forces de l'ordre, avec étaient quand même encore habitants dans cette HLM.
Mais les témoignages l'attestent, il ne s'est jamais rien passé. Ce n'est pas une zone de risque où il y a des points de deal ou ce qu'on peut imaginer. Il n'y avait jamais eu d'altercation jusqu'à présent.
En tout cas, eux avaient été condamnés à de nombreuses reprises par la justice. Est-ce que les Français sont là pour financer des HLM pour des personnes qui ne respectent pas les lois?
Alors, et à voir s'il faut politiser le débat, et on va peut-être le faire dans quelques instants, mais j'aimerais avoir l'avis de Pierre Lellouche. Est-ce que c'est une incivilité qui dégénère pour vous, une altercation, et puis on en vient aux mains, et malheureusement, le monsieur, l'octogénaire, ne fait pas le poids.
Je n'ai aucune information que j'ai écoutée avec attention, Madame de la Recherche, qui a l'air d'avoir plein d'informations sur ce qui s'est passé. Merci. Moi, je n'ai aucune information.
Mais c'est quelque chose qui se généralise, en tout cas, Pierre Lellouche.
Oui, non, il y a clairement un problème d'insécurité dans notre pays, et tout le monde le ressent. C'est clair, je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette affaire. Ce qui m'a frappé, c'est que votre journaliste a dit que les gens ne veulent pas témoigner parce qu'ils ont peur de représailles. Bon, ben, ça veut tout dire. Quand la mère, elle dit que la mère lui a dit aux chaînes de télé de ne pas filmer, ce que j'ai trouvé assez curieux, parce que quand il y a des choses aussi graves qui se passent, les Français ont le droit d'être informés. Je ne vois pas que le rôle du maire soit de dire non, non, on se tait, on ne regarde pas. Moi, si effectivement il y a ce sentiment qu'il y a des représailles et qu'il y a des gens dangereux dans le quartier, peut-être que ça aurait dû être traité depuis un sacré moment, plutôt que de se retrouver dans une situation de ce genre où, c'est vrai, les personnes âgées, tous ces derniers temps, il y a même une dame très âgée qui a failli être violée, tenez-vous bien, tout récemment.
Et qui s'est défendu. C'était à l'hôpital, je crois, d'ailleurs. On en avait parlé. Non, mais il y a des exemples cette semaine, mais ça est arrivé.
Des gens qui rentrent dans les chambres d'hôpital, d'autres qui rentrent dans les appartements.
C'est arrivé à un proviseur au sud de Toulouse. C'est arrivé à un jeune garçon qui s'est fait tabasser pour qu'on lui vole son vélo dans les rues en région parisienne. Et vous évoquiez la maire de Beson. On va écouter d'abord son premier témoignage. Pour elle, évidemment, il faut sanctionner absolument. Peut-être qu'il ne faut pas politiser, mais il faut sanctionner absolument. Et il ne faut pas avoir de pitié pour les agresseurs. Écoutez-la.
Ce matin, c'est vraiment la consternation, l'incompréhension face à cet acte de barbarie. Les agresseurs présumés seraient des voisins. Je réclame la plus grande sévérité. Moi, aucune pitié pour des gens qui ont des actes barbares. Pas de place pour ces gens-là à Beson. Et je demande fortement à ce que l'État nous accompagne pour mettre plus de moyens et pour instaurer un climat de confiance et de calme dans notre ville, mais dans toutes les villes de France aujourd'hui.
Dans toutes les villes de France aujourd'hui, Ludovine de la Recherche, c'est ce qu'elle dit, c'est-à-dire que ce phénomène-là, cette sensation, cette impression, comme le précisait Pierre Lellouche, elle concerne tout le monde, pas uniquement cette résidence de Beson.
Non, bien sûr. Et puis il y a eu le drame de Lola, et puis des drames successifs affreux. Et on voit bien que c'est des grandes villes, des petites villes, des villages, des banlieues, pas des banlieues. Enfin, ce qui est très frappant dans le propos de la maire, c'est qu'elle dit pas de caméras de télévision près de la résidence. Et puis la justice sera très sévère. Moi, je suis pour la justice soit très sévère. Bon, c'est une lapalissade à l'enfance des portes ouvertes. Et puis point. Comme si ça suffisait à régler cette affaire. Et en fait, elle se multiplie. Et on est toujours à faire comme si c'était une exception. Ou en tout cas, on ne veut pas creuser. On ne veut pas que les caméras rentrent, qu'elles posent des questions, qu'elles s'interrogent. Pourquoi la peur des représailles en effet? Je trouve que
peut-être pour ne pas mettre de l'huile sur le feu, ça pourrait provoquer une médiatisation à outrance. Jean-Michel Fauvert, bien sûr.
Surtout pas avoir l'air. Et si on faisait une analyse et tout fait peu mérite, une analyse légitime, c'était tout de suite appelé récupération. Mais on peut respecter le deuil tout en cherchant à comprendre. Et les familles peuvent le souhaiter aussi.
Jean-Michel Fauvert.
Moi, je pense que pour la bonne compréhension des choses, je ferai et puis en fonction de l'expérience que j'ai, je ferai la différence entre des affaires crapuleuses qui ont toujours existé, qui existeront toujours, avec possiblement derrière des gens qui sont dérangés psychologiquement. Il faut savoir qu'un certain nombre de crimes et de délits se font, un grand nombre de crimes et de délits, par des gens qui sont dérangés psychologiquement aussi. Et la criminalité, la délinquance, l'incivilité de tous les jours. C'est de celle-là dont on parle. Je suis pas persuadé que dans le cas précis, ça soit ça, mais ce qui nous choque et ce qui nous impacte, c'est cette criminalité de tous les jours sur lesquelles il n'y a pas de réponse pénale immédiate et adaptée. Et J'insiste aussi sur un fait. Là, effectivement, ce que dit la maire PS de cette commune-là, on ne peut que souscrire que la loi et la justice soient fermes dans cette affaire-là, bien évidemment. Mais immédiatement, elle s'en remet au gouvernement. Or, je voudrais dire une chose qui me semble importante. La sécurité, elle sera globale ou elle sera pas aujourd'hui. On a fait d'ailleurs une loi dans ce sens qui s'appelle la loi sécurité globale, dans laquelle on doit mieux rentrer en concordance l'action de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, l'action des polices municipales, l'action des services privés de sécurité. Et tout ce qu'on a fait comme effort en légiférant là-dessus, et d'ailleurs on a été suivi par l'ensemble des groupes, LR en particulier, même le RN qui a voté cette loi-là, tout ce qu'on a fait dans ce sens-là est défait par ce type de discours que fait la maire. En réalité, la lutte contre la criminalité, la lutte contre la délinquance, c'est l'affaire de tout le monde. Globalement. Et c'est pas de se dire c'est la faute à lui, c'est la faute à...
Mais ça contribue à diviser les Français. En l'occurrence, un homme est mort. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir aussi. Et il a été sauvagement agressé. Je voudrais qu'on évoque aussi cette nouvelle polémique en matière, cette fois-ci, d'atteinte à la laïcité. C'est une vidéo qui a été postée sur la plateforme de l'Académie de Lyon et qui a interpellé un collectif de parents d'élèves. On y voit une femme voilée donner un cours de cuisine à des enfants d'une classe de maternelle. Et cette séquence, bien sûr, relance aussi le débat sur la laïcité au sein de l'école. Que dit cette loi, d'ailleurs, en la matière, les précisions de Solène Boulan.
Quel est cet ustensile de cuisine ?
C'est à la suite de cette vidéo, postée sur le site de l'Académie de Lyon par une école maternelle du 3e arrondissement, qu'un collectif de parents s'est insurgé. Proche du parti Reconquête, le mouvement dénonce une atteinte à la laïcité.
Ça reste un voile auquel sont exposés nos enfants dans une parfaite normalité. Et donc, voilà, ça, c'est pas admissible.
De son côté, la FCPE salue l'investissement des parents d'élèves.
La position de la FCPE, c'est d'accueillir tous les parents au sein de l'école publique. C'est de pouvoir justement ne pas faire de différence ou de spécificité entre les parents.
En matière de laïcité, de nombreux textes rappellent que le principe ne s'applique qu'aux agents de service public dont ne font pas partie les parents d'élèves.
Dès lors qu'il est considéré comme un usager, donc en fait comme il agit comme parent et non pas comme enseignant, on va derrière, il n'y a aucune raison qu'il soit soumis au principe de laïcité puisqu'il n'est pas un élève, donc il n'est pas soumis à la loi de 2004 et il n'est pas soumis au principe général de laïcité dans les services publics puisque ce n'est pas un agent public. Quoi.
Sollicité à plusieurs reprises, le rectorat de Lyon n'a quant à lui pas répondu à nos questions et n'a pas confirmé que la femme qui apparaît dans la vidéo est bien une parent d'élève.
Alors, qu'elle soit d'ailleurs parent d'élève ou pas, Pierre Lelouch, voilà. Mais alors justement, en quoi c'est choquant ? En quoi, pour celles et ceux qui nous regardent, une femme voilée dans une école, pour des tout-petits, c'est gênant ?
Parce qu'il y a une loi et c'est interdit à l'école. Les dernières statistiques du ministre de l'Éducation nationale, qui n'est pourtant pas un combattant féroce de ces questions, il dit qu'il y a 353 incidents de ce genre par mois. Et par jour ouvrable scolarisé, ça fait 15 par jour.
On peut voir les chiffres d'atteinte à la laïcité, d'ailleurs.
Une partie de ces faits sont dus aux parents et une partie aussi aux enseignants, mais le gros, naturellement, c'est les élèves. Il faut savoir aussi que la moitié des incidents ne sont pas déclarés par les professeurs. La moitié ne sont pas déclarés. Et que la moitié des professeurs disent qu'eux-mêmes se censurent. Donc, en réalité, les chiffres sont bien plus importants que les 15 ou 20 incidents de ce genre par jour dans notre pays.
Parce que les enseignants s'autocensurent. Regardez le sondage IFOP. 52% des enseignants disent qu'ils sont, ce sont dans le cadre notamment de la laïcité et des atteintes à la laïcité, 52% reconnaissent s'être autocensurés.
C'est ce que je viens de dire. Ces chiffres sont consternants. Ça veut dire qu'en réalité, on est en roue libre et que ces chiffres s'accumulent. Quand j'entends un adjoint de cette mairie écolo-gauche de Lyon expliquer que c'est pas grave parce que la mère de famille, elle n'est pas agent public, mais dans la mesure où elle se livre à un enseignement à l'intérieur d'une école, elle est soumise aux règles normales de la République laïque, ou bien il faut arrêter. Mais ce qui m'a encore plus choqué, c'est que dans la dernière déclaration du ministre de l'Éducation, il dit deux choses. Il dit que le port de vêtements qui ne manifeste pas, il distingue, si vous voulez, entre les vêtements à nature religieuse, un voile, et tout ce qui est un vêtement, mais qui est de connotation religieuse, mais qui n'est pas vraiment...
Ça va, c'est un signe ostentatoire.
Et il met là-dedans les abayas et les camis. Pour lui, ce n'est pas religieux. Pour le ministre d'Éducation nationale, il faut lui dire de prendre un avion vers l'Arabie saoudite. On va lui expliquer ce que c'est.
On écoutera d'ailleurs un témoignage d'un enseignant sur les abayas, justement. Ouais, un enseignant qui a été confronté à cette situation. Bien sûr. Jean-Michel Fauvert, votre sentiment
sur
cette situation.
On a entendu aussi une représentante de la FCPE. Et qui était pour, qui trouvait ça très bien. Je veux juste signaler qu'il y a une formidable association qui s'appelle Raid Aventure, qui est dirigée par un ancien du Raid, Bruno Pomard, qui est un élu, qui est un maire d'une petite commune de province, de l'Aude, et qui a passé les 25 dernières années de sa vie à faire travailler des policiers et des jeunes des cités. Et que, évidemment, ce job-là est fait aussi à la sortie des écoles et pendant le temps libre sur les écoles. Et il a été sauvagement agressé verbalement par justement les mêmes représentants des parents d'élèves qui aujourd'hui défendent cette dame avec son foulard, avec son voile, pardon. Là aussi, on a un positionnement... Il y a une complicité de ces organisations-là qui sont des complicités qui vont contre les intérêts de l'État.
Un dernier mot, si vous m'autorisez. Dans ces déclarations récentes, le ministre de l'Éducation nationale a dit l'uniforme, il faut être naïf de croire qu'un uniforme serait la condition pour en sortir dans nos écoles. Pourtant, c'est quelque chose de simple et pas cher et qui fait toute la différence. Moi, c'est assez marrant. Je trouve que dans les pays arabes que je connais, on met l'uniforme.
Uniforme, absolument.
Dans beaucoup de pays d'Afrique.
C'est le cas. J'ai toujours été pour l'uniforme.
Et du Maghreb aussi. Et l'uniforme, vous l'avez beaucoup porté.
C'était ma première proposition, là, quand j'ai été la première fois élu à l'Assemblée, c'était en 93. Et ça fait 30 ans.
Je vais vous faire réagir, Ludovine de la Rochère. Mais en effet, c'est sur le port des abayas dont on parle de plus en plus, ces vêtements musulmans que portent beaucoup de jeunes filles, notamment dans les établissements scolaires. Ce sont donc ces... des espèces de vêtements que vous allez voir, que vous allez découvrir dans quelques instants. Mais Anne-Isabelle Tollé, de la rédaction de CNews, est allée à la rencontre d'un enseignant qui témoigne à ce sujet, puisqu'il a été confronté à ces abayas.
Cette année, il y a une sorte d'offensive de vêtements religieux, principalement de la part de femmes musulmanes, de jeunes filles musulmanes. On a affaire à beaucoup plus d'abayas. Une abaya, c'est une grande jupe, une jupe assez longue, avec un tissu souvent assez fin, caractéristique donc des pays musulmans. Quelquefois, elle dissimule ça sous un grand manteau ou dans un pantalon. Et une fois qu'elle rentre dans l'établissement, dans les toilettes, elles peuvent enlever le manteau, elles peuvent sortir l'abaya du pantalon et donc se présenter au cours comme cela. Et il m'est arrivé même quelquefois que la jeune fille refuse, se ferme, ne m'écoute pas ou me dit simplement « oui mais là je vais sortir » et de la suivre presque jusqu'à l'extérieur de l'établissement pour lui faire comprendre que c'est un endroit qui est laïque et qu'elle n'a pas à porter le voile, qu'elle n'a pas à afficher ses convictions religieuses dans l'espace de l'établissement. C'est quelque chose qu'elle a beaucoup de mal à comprendre, que les jeunes filles ont beaucoup de mal à comprendre. Très souvent, elles confondent laïcité avec agnosticisme ou athéisme. Très souvent aussi, elles nous ressortent l'excuse du culturel et non pas du cultuel.
Ce qui est clair, c'est qu'il y a une vraie confusion autour de ce port d'Abaya, des signes ostentatoires, oui, véritablement.
Le ministre lui-même...
Oui, et dans la confusion.
Puisqu'il distingue entre les signes religieux... Et ce type de vêtements, c'est catastrophique.
Est-ce un comportement insidieux dont
bien sûr. Et en fait,
ces jeunes filles-là.
Nous sommes plus qu'immensément naïfs. D'ailleurs, d'abord pour commencer, les atteintes à la laïcité, comme on dit, qui sont en fait de véritables agressions à l'égard de notre environnement et du contexte français, nous qui les accueillons, depuis quelques dizaines d'années, on est bien bon, franchement, à la fin. Il y a beaucoup plus d'atteintes à la laïcité, puisque M. Papendia, il ne compte pas les abayas, le camis et tout.
Voilà, c'est ce
comme
que je
viens
de dire.
Oui, mais comme des signes religieux. Donc vous disiez 353, mais c'est beaucoup plus. Il n'en compte qu'une partie, premièrement. Deuxièmement, quand on entend ce monsieur de la FCPE ou ce monsieur de la mairie de Lyon, quelle complaisance! C'est inouï. Évidemment qu'avec de telles attitudes, ils encouragent les élèves musulmans sous influence salafiste à faire du prosélytisme, parce que c'est ça, à faire une forme de conquête par le vêtement, par l'affichage, par le fait de s'imposer, avec aussi une certaine violence qui fait que les enseignants ont peur, tout le monde a peur en réalité, tout cela est très politique, très militant, et la bêtise, et l'ignorance, la complicité de ces personnes que nous avons entendues est criminelle à l'égard des Français. Et troisièmement, j'allais dire que de toute façon, et je ne vais pas être très politiquement correcte, que le Camille Abaya serait-il seulement culturel, ce qui n'est pas le cas, mais serait-il seulement culturel, les Français ont le droit et l'envie de vivre chez eux comme on vit en France depuis toujours, de se reconnaître dans leur propre pays et de se sentir encore chez eux.
Est-ce que vous êtes en train de dire, donc Ludovine de la Rochère, que seuls les musulmans sont prosélytes, notamment dans les établissements scolaires?
Alors écoutez, on ne l'a jamais observé dans les établissements scolaires publics. Je ne crois pas qu'on l'ait observé des évangéliques, des juifs, des catholiques, des chrétiens. Non, c'est l'islam. L'islam qui nous arrive de l'extérieur de manière de plus en plus massive et puis qui se multiplie d'autant plus qu'ils ont davantage d'enfants par famille que les Français. On le voit d'ailleurs aux prénoms, aux statistiques des prénoms, et notamment le prénom de Mohamed, qui est quand même une référence au prophète. Et il y a une volonté de conquête. Et d'ailleurs, ça s'entend de leur point de vue. C'est la logique même de l'islam, c'est la conquête. Et dans la conquête, et puis c'est aussi ce qu'on appelle la taqia, c'est-à-dire en quelque sorte la tactique, il y a différentes formes pour conquérir. Il y a par les armes, on l'a connu il y a un certain temps. Et puis, il y a, de la manière que nous connaissons aujourd'hui, alors il y a certainement des enfants, des jeunes qui sont pleins de bonne volonté et qui sont manipulés, mais c'est bien ce qui est en cours. Assumons-le.
Et après, il y a des issues malheureusement terribles, comme le cas de Samuel Paty. On a posé la question aux Français, en tout cas, ce sondage a posé la question aux Français. Le gouvernement a-t-il tiré les enseignements de la mort de Samuel Paty? La réponse est non à 77%, Jean-Michel Fauvergue.
Plusieurs choses, et je vais répondre à votre question en même temps. D'abord, je voudrais souligner que dans le reportage précédent, la professeure a ramené l'enfant à la porte du collège et l'a mis dehors. Donc ça, il faut le souligner. On l'a mis dehors du collège ou du lycée, peu importe. Donc ça, c'est quelque chose d'important à souligner. La deuxième chose, pour répondre correctement à votre question, il y a des textes qui ont été pris. Et le dernier en date, c'est le texte sur le séparatisme qui a été voté à la dernière législature, c'est-à-dire sur le texte sur les valeurs de la République. Voilà, c'est le vrai nom de cette loi, dans lequel il y a un certain nombre de manettes qui sont données aux uns et aux autres pour agir. La problématique, elle ne vient pas des textes, elle ne vient pas des lois qui sont votées. La problématique, elle vient de la mise en application de l'ensemble de ces textes par l'ensemble de la chaîne hiérarchique. Donc il faut signaler un fait. Quand le fait est signalé, eh bien, la moindre des choses, c'est d'appuyer son enseignant et ensuite de faire remonter le fait et de faire en sorte qu'ensuite on règle le problème, en particulier avec les lois que nous avons votées.
Bon, on peut pas.
Juste pour conclure, en quelques secondes, Pierre Lelouch.
Tourner en rond en rappelant des lois. Je sais que vous l'avez voté, ce texte. Moi, j'en espérais tout à fait autre chose. Mais peu importe. C'est dans la loi, vous dites le problème, c'est que c'est dans la loi, mais ce n'est pas appliqué. La difficulté, c'est que quand le président de la République nomme un ministre qui n'a aucune intention d'appliquer la loi et qui laisse les chefs d'établissement et les profs dans le flou, évidemment que ce n'est pas appliqué. Évidemment que
c'est la confusion.
Qui est lui-même dans une logique
idéologiquement, il est contre. Donc il ne va pas l'appliquer. Donc on est tout le temps avec ce gouvernement dans le double langage. On vote une loi au terme de laquelle, normalement, les principes sont appliqués. En fait, ils ne le sont pas, puisque les écoles ne reçoivent pas de directives. Vous avez entendu cette professeure?
Et les professeurs se sentent abandonnés, bien sûr, par leur hiérarchie. Ils le sont par la hiérarchie, en effet.
Ils se sentent largués, ils se sentent tout seuls. Et en plus, le ministre continue à faire de subtiles distinctions entre le vêtement religieux. On va discuter maintenant de la qualité du tissu. Attendez.
Une pause. On se retrouve dans quelques instants, nos débats avec nos invités et le point sur l'actualité dans 90 minutes info. La troisième partie avec Ludovine de la Rochère, Pierre Lelouch, Jean-Michel Fauvergue et les infos avec Mathieu Devez.
Un homme de 87 ans est mort après avoir été roué de coups dans son immeuble à Besançon et dans le Val-d'Oise. L'octogénaire a succombé à ses blessures après avoir été agressé lundi dans sa cave. C'est sa femme qui l'a découvert inconscient, la tête ensanglantée. Deux voisins, deux frères ont été placés en garde à vue.
Dans l'actualité politique, Europe Écologie Les Verts élit sa nouvelle chef. Les écologistes désignent aujourd'hui à Rungis leur nouvelle secrétaire nationale, Marine Tondelier. L'élu d'Hénin-Beaumont est notamment connu pour son combat contre le RN dans le Pas-de-Calais. Fin de la prise d'otage à Dresde, en Allemagne. Le suspect a été tué ce matin dans une galerie commerciale après l'intervention de la police allemande. Le tireur, âgé de 40 ans, aurait d'abord tué sa mère avant de tenter de pénétrer dans les locaux d'une radio, puis de se réfugier dans un centre commercial. La police a pris en charge deux personnes sans blessure apparente.
Et nos débats autour de la santé à présent, face à l'augmentation des contaminations liées au Covid et à la pression hospitalière en hausse avec les épidémies de bronchiolite et de grippe, le ministre de la Santé appelle à un sursaut de la vaccination, particulièrement pour les Français les plus vulnérables. Précision de Quentin Gribel et Solène Boulan.
C'est le retour d'une conférence de presse bien connue des Français. Pendant près d'une heure hier, le ministre de la Santé François Braun a fait le point sur la situation sanitaire dans l'Hexagone, accompagné de plusieurs spécialistes. Objectif, créer un électrochoc alors que les messages de prévention ne semblent pas être entendus et que le pays fait face à une triple épidémie mêlant grippe, bronchiolite et Covid-19.
Les messages ont été les mêmes que ceux de toutes les vagues. Ce que l'on constate, c'est que les messages sont moins bien passés, c'est-à-dire qu'ils ont moins bien été relayés aussi.
Car l'heure est grave. 9,9 millions de vaccins contre la grippe ont été vendus, soit une baisse de 5% par rapport à 2021. Concernant le Covid, 2,8 millions de personnes ont été vaccinées depuis début octobre, bien moins que nos voisins européens. Conséquence, dans les services de soins critiques, plus de 1100 personnes atteintes par le virus sont hospitalisées et le nombre de nouveaux cas quotidiens atteint les 58 000, un chiffre en hausse de 16% en une semaine.
Se laver les mains, aérer les pièces régulièrement, porter le masque dans les lieux clos où la promiscuité est de mise. Nous avons adopté ces comportements en pleine crise Covid. Nous avons réussi à vivre avec, et le plus souvent à bien vivre avec. Revenons-y le temps de cet hiver.
Un rappel qui sonne comme un dernier avertissement. En début de semaine, François Braun avait assuré qu'il n'aurait pas la main qui tremble s'il fallait rendre à nouveau le masque obligatoire.
Et avec cette conférence de presse, hier, on avait l'impression d'être dans un film Un jour sans fin. Vous savez, ce film où chaque jour, la même journée recommence. Ça nous rappelle évidemment des souvenirs assez tristes. Les débuts du Covid, du confinement, la découverte pour les Français. Ce sursaut, Ludovine de la Rochère, que demande le ministre, que suggère le ministre de la Santé, est-ce qu'il arrive au bon moment ou est-ce que ce n'est pas déjà trop tard ?
Oh, je dirais que d'une certaine manière, c'est jamais trop tard. Mais j'avoue, ce que je comprends pas très bien, c'est que de ce que j'ai compris aujourd'hui, le Covid, enfin, ou le variant actuel, c'est un rhume. Donc, je vois pas très bien. On est rentré dans une espèce de logique.
Rhume. Il y a quand même des gens qui sont hospitalisés pour cela, hein, aujourd'hui.
Oui, mais peut-être des personnes qui n'ont, je sais pas,
oui, personnes fragiles.
Qui n'avaient jamais eu. Rhume pour des personnes qui ne courent pas de risque particulier. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Je ne vous cache pas que je ne suis pas sur le sujet. On en a un peu...
Il y a une vraie confusion là aussi, évidemment. Ouais.
Et on finit par, j'allais dire, lâcher un peu le morceau. Ça ne veut pas dire que... Enfin, je pense pour autant qu'il faut faire attention pour les personnes vulnérables, qu'elles-mêmes doivent faire attention, mais... Après, la vie est faite de risques, de maladies, et si on commence à nous égrener, en fait, on est un peu rentré là-dedans. Alors la grippe, la bronchiolite, et puis tout à l'heure, on parlera d'Emmanuel Macron, et puis toutes les IST possibles et imaginables. Enfin, c'est un peu terrible. Au nom de notre sécurité, on nous materne, on nous infantilise. Bien sûr qu'il faut informer, mais calmement, sans panique, tranquillement, et sans être dans la menace, sans être dans la caricature. Enfin.
Mais moi, je suis parce que les hôpitaux aussi commencent à se remplir. Là, il y a une vraie ligne de flottaison qui devient inquiétante.
Qu'il intervienne. Voilà. Je ne conteste pas le fait qu'il intervienne, et c'est jamais trop tard pour le faire.
Mais... Moi, je suis consterné par ce genre de discours, je veux dire, parce qu'on a quand même une expérience qui est tragique dans le monde. On a eu 120 ou 130 000 morts en France, il y en a eu 1 million aux États-Unis, il y a 5, 6, 7, probablement plus, millions de morts dans le monde. Quand j'entends dire que c'est un rhume parce que c'est le dernier variant, mais en aucun cas, je m'excuse, moi je sais...
Le variant actuel, c'est un rhume.
Mais permettez-moi de vous dire, écoutez, je ne veux pas rentrer dans des détails personnels ou de gens que je connais, mais c'est tout sauf un rhume. Les gens qui attrapent ça sont très fortement touchés d'une personne à l'autre, ça peut être très très dangereux. Et heureusement qu'il faut être vacciné, parce que sinon on risque d'en mourir. Quant à s'en protéger, c'est absolument indispensable. De rentrer dans un métro ou dans un magasin sans masque aujourd'hui, c'est prendre un risque pour soi-même et pour les autres.
Et pardonnez-moi, oui, mais
aujourd'hui, personne ne le respecte, Pierre Lelouch. Les Français ne sont pas prêts à le faire.
À partir d'un certain âge, oui, bien sûr, mais pas, on ne peut pas dire ça à tous les jeunes. Écoutez,
Pierre Lelouch,
je conçois...
Mais remettons le pass sanitaire quand on y est.
Je conçois que les gens en aient marre de porter des masques, moi y compris. Que ce soit extrêmement désagréable, que d'avoir des rappels de ce genre soit insupportable. Mais il y a un problème de santé publique. Les hôpitaux vont être saturés. Il y a plein de sujets.
Le problème, c'est les hôpitaux. Le problème, c'est plutôt ça.
Mais le problème, c'est les hôpitaux. Mais enfin, c'est ceux qui sauvent les gens.
Oui,
on peut pas. On est quand même des citoyens.
C'est pas de la faute des médecins.
Je veux dire, on a une responsabilité individuelle qui est d'abord d'éviter de causer des problèmes ingérables pour la société.
Ça fait déjà des années que nous sommes dans cette situation de.
Mais attendez, je voudrais juste terminer.
Obligations diverses. Et le problème, c'est d'abord de traiter où ça aurait été de s'y mettre pour révolutionner le fonctionnement de l'hôpital qui fonctionne et on est perpétuellement tenu.
Vous n'allez pas résoudre le problème de l'hôpital avant que les médecins soient formés, c'est-à-dire avant 10 ans. Dans le meilleur des cas.
Depuis 3
c'est
ans,
comme le programme nucléaire. Il y a un temps de latence.
Mais Madame, depuis 3 ans, on s'y est pas mis à revoir le fonctionnement de l'hôpital. 3 ans, on a perdu 3 ans déjà.
Ne me demandez pas de défendre la politique de ce gouvernement sur l'hôpital, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est à partir des contraintes que nous avons sur l'hôpital aujourd'hui, sur la médecine aujourd'hui, la dangerosité de ce virus, le fait que nous ayons fort heureusement des vaccins, la première chose à faire, c'est de vacciner à tour de bras toutes les personnes
bien sûr.
Et de vacciner tous les 6 mois, parce que c'est ça le sujet. Il faut constamment revacciner.
L'ensemble de la population pour vous, Pierre Lelouch, pas uniquement les personnes fragiles.
En priorité, c'est-à-dire
les plus de 60 ans ou en dessous de 60 ans.
Les personnes de plus de 60 ans.
C'est ce que recommande le gouvernement.
Mais le virus, quand il frappe même des jeunes, moi j'ai eu plein de témoignages de gens plus jeunes qui ont pris des méchants coups sur la tête. Sachez enfin qu'il s'agit d'un coronavirus. Un coronavirus, il reste dans votre corps. Et il va réveiller toutes sortes de pathologies. Donc il ne faut pas jouer avec ça. Quand j'entends dire que c'est un rhume,
ça peut être
les symptômes d'un rhume pour une majorité de la population, malheureusement.
Il y a 3 ans, on a eu 5 ou 6 millions de morts, et maintenant on ressort le rhume.
Je vais entendre Jean-Michel Fauvert quand même sur le sujet.
Pardon. La moyenne d'âge des personnes qui sont décédées est de 80 ans, et d'une. Donc je pense qu'on peut estimer que les 3/4 d'entre eux seraient morts de toute façon... Non, je dis simplement que les 3/4 d'entre eux, vraisemblablement, seraient morts dans l'année. Donc c'est un peu plus complexe qu'a priori.
Et mon ami Devedjian, il n'avait pas 80 ans, il est mort. On a perdu un certain nombre de gens.
Moi, je vous parle des données chiffrées officielles. Deuxièmement, bien sûr que je ne dis pas du tout qu'il ne faut pas appeler les personnes vulnérables à se faire vacciner. J'ai aucun doute là-dessus. Je rappelle quand même que le vaccin n'empêche pas l'épidémie, enfin n'empêche pas la contagion.
Mais personne ne l'a prétendu, ça, madame.
Le problème, Jean-Michel Fauvergue, c'est que aujourd'hui, les Français, et on est un échantillon représentatif sur ce plateau, c'est que personne n'a la même perception de la maladie aujourd'hui du Covid. Et c'est ça le problème.
C'est normal.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas suivre une recommandation particulière parce qu'elle ne s'appliquera pas de la même manière à chacun d'entre nous.
Non,
voilà pourquoi on est dans la nuit.
On n'a pas la même perception. D'ailleurs, il ne vous a pas échappé qu'on a des différences de perception sur à peu près tout. Mais on n'a pas la même perception sur quelque chose que l'on ne maîtrise pas parce que c'est quelque chose de très technique et de très scientifique. Moi, je veux juste dire qu'on est dans un pays qui s'appelle la France où on a des possibilités de tomber moins malade. Moi, je dis moins malade, en utilisant les outils qu'on nous donne, c'est-à-dire le vaccin, c'est-à-dire les masques, c'est-à-dire se laver les mains, c'est-à-dire tout ce qu'a dit le ministre d'une manière générale. Et ça pour zéro euro, parce que c'est pris en compte, ça il faut quand même le dire, peut-être un peu de cocorico là-dedans, c'est pris en compte par l'ensemble de la communauté de la sécurité sociale. Donc profitons-en pour à la fois se prémunir individuellement et prémunir les autres d'une manière générale avec des comportements qui sont des comportements plus responsables.
Bien sûr. Alors, il s'agit en tout cas des fêtes qui approchent aussi. Ce sont les fêtes de tous les dangers, parce qu'entre les coupures d'électricité, la grève de la SNCF, puisque le préavis était confirmé, et donc le Covid, et essayer de protéger, parce qu'il y aura les familles et les générations qui vont se mélanger pendant les fêtes, on est dans une vraie problématique. Voilà pourquoi aussi les pharmacies se préparent à vacciner, comme le recommande le ministre de la Santé.
Ce qu'elles ont fait par le passé.
Ce qu'elles ont fait et ce qu'elles continueront à faire. On écoute ce syndicat de pharmaciens.
Des personnes concernées, pour nous, il n'y a pas d'ambiguïté. Hein. Toutes les personnes qui manifestent l'envie de faire un rappel peuvent le faire, quel que soit leur âge. On vaccine toutes les personnes qui en font la demande, du moment qu'on respecte les délais, c'est-à-dire qu'il y ait au moins 6 mois avec leur dernière injection. Comme on va être dans les fêtes de fin d'année, il y aura pas mal de mouvements dans les familles. On peut être amené à rencontrer des personnes plus fragiles, des personnes plus âgées dans son entourage. Alors c'est vrai que depuis 10-15 jours, on a quand même une forte augmentation des demandes. Moi, j'ai doublé ou triplé mes prises de rendez-vous sur les vaccinations Covid. Et en fait, on voit toutes les tranches d'âge. Hein.
Il y a le fond et la forme. Il y a évidemment le fond et la forme, puisque les pharmaciens sont prêts à vacciner. Mais les Français, eux, sont-ils vraiment concernés avec cette perception de la maladie? On les écoute.
Pour être honnête, si c'est comme les fois précédentes et que nous n'ayons pas le choix pour accéder au restaurant et aux activités que Paris nous offre, je pense que je vais devoir le faire exactement.
Là, on force pas ?
Non,
je le fais pas. Bah là, j'estime que c'est bon. Enfin, j'en vois pas le besoin là. Mais ici, je pense qu'il y a, d'autres mesures à faire et je pense que le vaccin, il a pas forcément été efficace jusque-là. Donc.
Je me suis déjà fait vacciner 2 fois et j'ai pas le temps et puis je pense pas que ce soit vraiment nécessaire.
S'il faut le faire avant Noël, je le ferai avant Noël. Bah parce qu'il faut protéger soi-même et les autres.
Non, mais je le ferai pas. J'ai pas envie de le faire. J'ai déjà assez emmerdé avec le Covid. Vacciné ou pas, c'est une grippe, quoi.
Il n'y a pas eu d'obligation. Du coup, bah, je vois pas pourquoi est-ce que j'irais le faire alors que je peux sortir dehors et faire ce que je veux.
C'est pas tellement se protéger soi-même, c'est protéger l'ensemble des gens, quoi. C'est un peu un devoir, quoi.
Voilà, c'est partagé, Pierre Lellouche. Mais il y a des témoignages qui vous ont accablé véritablement.
Oui, parce qu'il y a beaucoup d'inconscience. Quand j'entends dire que c'est un rhume, que c'est pas grave, ils savent pas de quoi il s'agit. Bon, c'est vrai que la jeunesse se croit immortelle. Tant mieux. Sauf qu'encore une fois, c'est un virus qui ne part pas. Coronavirus, comme l'herpès ou d'autres choses de ce genre, une fois que c'est dans le corps, c'est dans le corps. Puis ça réveille toutes sortes d'autres problèmes et de pathologies.
Comme donc, la
conseil,
rigole, comme les
conseil aux jeunes gens, faites attention. Pour les personnes plus âgées, c'est indispensable. Et la mesure de respect qu'on doit aux autres, et surtout aux soignants, c'est d'éviter de transmettre la maladie. Et oui. Donc le masque, c'est une mesure de précaution. Mais je veux dire, de base, dans le métro, dans un bus, dans un train, dans un magasin, il faut
comme le faisaient les pays asiatiques avant la découverte de ce virus. Les pays asiatiques faisaient ça.
Bah bien sûr,
avec les masques avant même.
Qu'on fasse attention si on est soi-même vulnérable ou si on est amené, en effet, pendant les vacances de Noël, par exemple, à être auprès d'une personne vulnérable. Et dans ce cas-là, il faut y veiller. C'est du bon sens. Après, ces rappels infantilisants du ministre, alors il est dans son rôle en faisant des rappels, mais la manière de le faire, le pharmacien en parlait d'une manière, je ne sais pas comment dire, en adulte qui parle à des adultes, au moment de Noël, on voit des personnes vulnérables, il est infiniment plus convaincant et plus motivant que le discours politique tellement maladroit et répétitif depuis des années et qui suscite un rejet, on le voit très bien dans les réactions. Par ailleurs, le vaccin, moi je ne suis pas du tout contre le vaccin, hein, mais c'est le problème, la question n'est pas si simple. Les conséquences pour les femmes sont importantes, elles ont été tout à fait reconnues, mais on fait comme si de rien n'était et on avance. Et ces conséquences sur la menstruation, sur les cycles et tout, elles ont des conséquences sur la fertilité. Et c'est un sujet dont on parle, qu'on a reconnu, mais finalement tout le monde s'en fout, on fait comme si de rien n'était.
On vient d'en parler maintenant. Par votre entremise, oui, donc on l'a fait. Juste encore un mot, absolument, encore un mot, parce que la parole est libre, avec vous Jean-Michel Fauvert. Et j'aimerais justement, pour illustrer votre propos aussi, qu'on voit une image d'Emmanuel Macron qui montre l'exemple, puisqu'on l'a vu avec un masque. Ça, c'est un signe fort aussi, tout de même.
Oui, tout à fait. Et vous savez quoi, en écoutant ces propos-là, mais que j'avais déjà entendu auparavant, moi, je me suis dit assez rapidement qu'on s'attaquait plutôt qu'à la forme et au fond. C'était le Covid a été une immense excuse pour démolir au fur et à mesure toute la politique du gouvernement dans ce domaine-là, etc. Il faisait mal les masques, pas les masques, le vaccin, pas les vaccins, etc. Et ça affaiblit l'image de fond qui est de la prévention au niveau médical. Vaccinez-vous, prenez les précautions, etc. En attaquant les porteurs des messages, en fait, en réalité, on s'est attaqué aux messages. Et ça n'a pas été très bon chez nous.
Toujours en matière de santé et de prévention, la gratuité du préservatif en pharmacie concernera aussi les mineurs, puisque vous savez qu'Emmanuel Macron l'avait annoncé pour les 18-25 ans. Message donc du chef de l'État qui s'était exprimé jeudi sur la première mesure qui va s'appliquer à partir du 1er janvier. Mais il a été interpellé et on lui a dit « Attendez, n'oubliez pas les mineurs ». Et donc, qu'a fait le président ? Bah, il a dit « Banco ».
Ok. C'est que les préservatifs à partir du 1er janvier prochain seraient gratuits pour les 18-25 ans. C'est une petite révolution de la prévention, c'est essentiel pour que nos jeunes se protègent lors de leur rapport sexuel. Mais j'ai été pris à partie par beaucoup, en tout cas plusieurs d'entre vous, sur le fait que beaucoup de nos jeunes mineurs avaient des rapports sexuels et qu'il fallait aussi qu'ils puissent se protéger, qu'ils pouvaient avoir les mêmes contraintes financières. Alors je dis banco, allons-y, donc on va faire travailler les équipes pour étendre cette mesure aux mineurs. Et donc tous les mineurs et les majeurs jusqu'à 25 ans, on va mettre en place cette politique. Je pense que c'est une très bonne politique de prévention pour permettre à tous les jeunes de se protéger. Sortez couverts, comme disent les grands auteurs.
La politique de prévention, on en parle dans quelques instants, son efficacité, l'intérêt de cette gratuité. Juste un mot sur la communication tout de même. Sur Twitter, sortez couverts comme disent les grands auteurs. Banco au préservatif, Pierre Lelouch, votre réaction ?
Moi, j'allais vous répondre, imagine-t-on le général de Gaulle faire une sortie de ce genre ?
C'est bien pour ça que je vous pose la question.
Que ce soit du niveau du secrétaire d'État à la santé, je veux bien, ou du directeur à la santé publique, je veux bien, et ça se discute. Mais au niveau du chef de l'État, j'avoue que je suis un tout petit peu troublé. Voilà, je peux pas, on ne peut pas tout mélanger dans cette fonction-là, qui est quand même le job suprême, la responsabilité suprême dans le pays. C'est l'homme qui tient la bombe atomique, c'est l'homme qui va négocier avec Biden et Poutine, qui doit faire des choix fondamentaux sur l'énergie, etc. Voir redescendre au niveau de Banco pour la capote, pour les ados. Après, il y a le fond. Encore, donc, à mon avis, ce n'est pas son rôle, même si c'est de la com moderne. Et deuxièmement, sur le fond, là, Madame de La Rochelle, tout à l'heure, parlait d'infantilisation s'agissant du Covid, alors que ce n'est pas de l'infantilisation. Là, oui. Parce que quand on traite les jeunes adultes comme des bébés, qu'elles soient filles, parce qu'on va distribuer maintenant de la contraception, qu'on n'arrête pas de revenir sur l'avortement, que maintenant on va distribuer des préservatifs, on est en train de dire aux jeunes, vous êtes irresponsables, voilà, on vous donne les moyens de vous amuser parce que vous êtes irresponsables. Alors que
c'est un problème de moyens aussi, Pierre Lelouch, pardon, c'est aussi pour ça que cette initiative a été prise.
Un préservatif, c'est un problème de moyens, il faut arrêter.
C'est comme ça que c'est présenté en tout cas, c'est un coût. Non, mais c'est un coût dans un budget pour un jeune, pour un mineur, pour un étudiant.
Ouais, moi ce que je crois, ce serait, j'aurais davantage confiance si l'on traitait nos jeunes un peu comme des adultes et pas seulement comme des assistés à qui il faut donner tous les moyens, y compris de leur vie dans leur chambre à coucher. Ça, je dois dire que là, l'État est en train de franchir des limites qui me paraissent étonnantes.
On fait aussi de la prévention. C'est aussi pour sauver des vies, tout simplement. D'ailleurs, le préservatif, ce n'est pas uniquement le VIH. C'est aussi le dépistage de plein d'autres pathologies. C'est une manière de se protéger. Donc, c'est pas qu'un gadget, finalement, cette mesure, Jean-Michel Fauvergue. C'est indispensable.
Le préservatif n'est surtout pas un gadget. Et pour tout le monde, et en particulier auprès des jeunes.
Alors, c'est le préservatif qui est en cause. C'est la distribution gratuite à une catégorie de la population.
Alors, moi, j'étais en France où, sous la présidence du général de Gaulle. Et à cette époque-là, les messages se faisaient différents. Ils se faisaient d'abord par nos parents, qui s'occupaient de faire notre éducation au niveau le plus intime, ou pas, d'ailleurs. C'était un vrai problème à cette époque-là. Et donc, on n'avait effectivement pas besoin de cette communication-là. Seulement, le problème, c'est que le monde a changé. En particulier, on a des réseaux sociaux qui ont pris de plus en plus d'ampleur et que pour toucher une partie de notre population qui est devenue de plus en plus individualiste, convenons-le, et dont les parents, ne, pour certains, ne s'investissent plus dans ce devoir de transmettre, eh bien, c'est peut-être bien de leur transmettre différemment et au plus haut niveau de l'État. Donc, alors effectivement, moi je conçois qu'on puisse être un peu choqué par cette communication un peu moderne. J'ai moi-même quelques réticences.
On rappelle que c'était sur Twitter. Hein.
Oui,
les
oui.
réseaux sociaux, c'est très utilisé par les jeunes.
Bien évidemment. Voilà.
C'est Instagram, TikTok, c'est pas Twitter.
Alors les jeunes ont aussi Twitter. Ils sont beaucoup sur Instagram et TikTok, en effet.
Beaucoup moins.
J'en conviens.
Moins.
Bon, mais c'est un réseau social qui est utilisé aussi.
Je vais juste terminer. J'ai quelques réticences à titre personnel parce que je trouve tout simplement les images pas belles. Voir le nez, les narines de quelqu'un, c'est jamais très beau. Mais c'est un moyen.
C'est parce qu'il fait un selfie. Vous n'avez jamais fait de selfie, Jean-Michel.
Oui, justement, je ne trouve pas.
Voilà, apprenez à faire un selfie. Vous voyez bien de face avec la caméra. C'est le selfie.
Je parlais de moi et quand je fais un selfie, je me trouve pas beau. Donc j'ai arrêté ça. Mais c'est quelque chose qui maintenant est absolument nécessaire que de transmettre aussi les messages par ça.
Ouais. Mais c'est aussi parce que la sexualité des jeunes a changé. Il devine de la recherche par rapport à l'époque dont parlait Jean-Michel Fauvergue, on évoquait les capotes anglaises au soir de France-Angleterre. Voilà, c'est bien de le préciser.
Alors,
on parle de préservatif et de gratuité.
Effectivement, on a complètement changé d'époque. Moi, je suis atterrée quand je vois, un petit peu comme M. Lelouch, quand je vois les enjeux, quand je vois l'état de la France, l'état du monde, qu'on revienne une fois de plus sur des obsessions. Sexuel, parce que vraiment il y a une obsession des choses sexuelles de la part de nos gouvernants, mais qu'ils le laissent aux médecins, aux familles, à des experts en la matière.
Pourquoi une obsession sexuelle ?
Parce qu'on revient.
Par exemple.
L'IVG, la pilule, le changement de sexe, la chirurgie de changement de sexe, les bloqueurs de puberté, tout le temps.
C'est de la santé aussi, ce n'est pas que de la sexualité,
oui,
c'est de la santé.
Alors, ce qui était intéressant, c'est que là, c'était Emmanuel Macron qui parlait, précisément. Il parlait des relations sexuelles, mais en fait, le prétexte, c'est la santé. Dans ce cas-là, c'est donc au ministre de la Santé d'en parler. Et si quelqu'un va sur les relations sexuelles, moi, j'aurais aimé qu'il demande aussi aux jeunes et qu'il invite les jeunes à ne pas faire n'importe quoi, n'importe comment, à n'importe quel âge, qu'il invite les jeunes à se respecter et à respecter les autres. Mais comme en effet, il n'est pas là pour tenir ce discours-là, eh bien, je trouve qu'il vaut mieux que ce ne soit pas lui qui intervienne, mais d'autres qui sont mieux positionnés.
Le ministre de la Santé, plutôt, alors.
Par exemple, le ministre de la Santé. Et puis, il y a une autre chose. CNews pourrait aller mener une enquête sur ce qu'on appelle, je mets des guillemets, l'éducation sexuelle à l'école, qui commence très, très jeune, qui, évidemment, autre sujet, parce que M. Papendia, il nous a expliqué, lui aussi, qu'il fallait plus d'éducation sexuelle à l'école, qu'il fallait la renforcer, qu'il allait la contrôler. L'instruction, il s'en fout, éducation sexuelle. Mais c'est juste dingue. Et donc, il en faut encore et encore. Allons la voir. Ouvrons les manuels scolaires, ouvrons les supports donnés aux jeunes, très jeune, hein, dès le collège, voire dès le primaire. Je vous invite aussi à aller regarder les sites internet qui sont recommandés aux jeunes, ceux du CRIPS, etc. Mais je vous recommande aussi d'aller dans les bibliothèques municipales, Bordeaux, Toulouse. Pour les 0-3 ans, 3 ans, 6 ans, vous avez des séances qui sont animées par des drag queens. Je crois que ni les parents, ni les politiques, ni les médias ne regardent ce qui se passe. Et ce qui se passe auprès de nos enfants et petits-enfants n'est pas adapté à leur âge. Alors que
Est-ce
le code
que c'est
de
une généralité, l'exemple des drag queens, pardonnez-moi, elle devine de la recherche, j'ai pas l'impression que ce soit le cas dans toutes les écoles, qu'il y ait des drag queens qui viennent dans tous les établissements scolaires.
Dans des bibliothèques municipales. Il y a de manière générale, bien sûr, je pense qu'il n'y en a pas dans toutes les bibliothèques municipales, mais je pense qu'il y en a plus qu'on l'imagine. C'est peut-être vu sous l'angle naïvement du carnaval, du festival, je ne sais pas très bien. Mais je vous invite, j'invite les parents à regarder, à parler avec leurs enfants et à regarder ce qui leur est donné, proposé, indiqué. Et encore une fois, très jeune. Les recommandations de l'OMS, d'ailleurs, c'est que dès la maternelle, il faut apprendre à caresser son corps, à découvrir son corps. Et les mots sont un petit peu plus forts que ceux que je suis en train de donner. Et toutes ces indications de l'OMS, elles suivent leur cours à l'éducation nationale, elles suivent leur cours dans les supports. Mais qui va voir de près ? Moi, je vous fais le
pari. Alors, bien sûr.
Que si vous allez voir, si on va voir, moi je l'ai fait, on serait stupéfait. Alors que le code de l'éducation indique, et puis sans compter les associations militantes agréées par l'éducation nationale, il y en a dont la teneur des propos ne sont pas adaptées à l'âge des enfants. Alors que le code de l'éducation met cela comme règle impérative, elle n'est pas respectée.
Sur le fond, vous êtes d'accord que c'est bien de promouvoir l'usage du préservatif pour se protéger,
mais
tout simplement. C'est ça à la base.
Bien sûr, mais
c'est peut-être maladroit dans la forme.
Il y a protéger sa santé, mais il y a aussi se respecter et respecter l'autre. Parce qu'un garçon qui met un préservatif, il va aller trouver une fille après.
Non, mais la question.
Fait-il sur cette fille
vraiment, en deux mots,
que le temps est parti.
La question, tout ça est très juste, mais la question c'était, est-ce que c'est au président de la République de faire ce genre d'annonce? Deuxièmement, est-ce que la gratuité est la bonne solution? Voilà, sur ces deux points.
Et on y a répondu. On y a répondu, et vous avez bien fait. Vous avez bien fait.
Sans toucher à l'utilité, naturellement.
Évidemment, ça c'est un usage très important et déterminant. Merci de nous avoir accompagnés. Dans un instant, c'est Punchline avec Patrice Boisfer. Et si vous avez envie de revoir cette émission, qui était évidemment magnifique, c'est news.fr, comme toujours. Absolument.
Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code PROGRAM.